Bienvenue sur la page Bible Espoir. Nous sommes heureux de vous y accueillir et nous vous souhaitons une bonne écoute.
Alors, merci Seigneur pour ces moments partagés dans la louange et d'avoir vécu cet enthousiasme que vous avez manifesté à travers ces cantiques. Eh oui, c'est bien. Alors, nous allons ouvrir notre Bible sur un texte très bref. Mais je pense qu'il est important. Il est bref, mais il veut dire beaucoup de choses. Alors, dans l'Évangile de Jean, s'il vous plaît, au chapitre 14 et verset 18. Et j'aimerais aborder un sujet, c'est bien de varier de temps en temps. La doctrine biblique est tellement vaste, il y a tellement de choses à dire, ça c'est clair. Et c'est bien de pouvoir, à un moment ou à un autre, nous laisser conduire pour aborder tantôt une situation, tantôt des circonstances, tantôt des enseignements, de l'évangélisation également, des révélations, pourquoi pas. Alors, donc, Jean, vous ai-je dit que c'était au chapitre 14 ? Oui. Est-ce que je vous ai parlé du verset 18 ? Eh bien, j'ai tout dit. Bon, je peux partir maintenant. Voilà. Enfin, je restais quand même avec vous. Le sujet que nous allons aborder dans cette période de notre monde où nous avons affaire à une démographie galopante. Vous savez qu'on a dépassé, ou on va le dépasser bientôt, si ce n'est pas déjà fait, les 8 milliards d'êtres humains sur la Terre. Et je pense qu'on pourrait dire, on est bien tous ensemble, c'est formidable, c'est extraordinaire, eh oui. Mais quand on voit ce que l'on voit et ce que l'on sait de ce qui nous est rapporté sur l'état du monde, d'une façon ou d'une autre, eh bien, il y a un mal qui subsiste. Et je voudrais vous en parler parce que ce n'est pas seulement à l'extérieur de nos communautés, mais c'est aussi un phénomène qui se rencontre dans l'Église, dans la communauté des enfants de Dieu, des chrétiens, qui plus est chrétien évangélique, pourquoi pas. Et c'est le problème, c'est le sujet de la solitude. La solitude. On a tous certainement éprouvé ce genre de choses. Mais pour certains, c'est un vrai, véritable problème. Et je reviens sur ce que je vous ai laissé et que nous allons partager ensemble. Jésus nous dit, c'est Jésus, hein, « Je ne vous laisserai pas orphelins. » Pour nous, hein. « Je ne vous laisserai pas orphelins, déshérités. Je viendrai à vous. » Ce n'est pas nous, mais c'est lui. « Je viendrai à vous encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. » On sait de quoi Jésus veut parler. « Mais vous, vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. » La vie affranchie de toutes nos solitudes. La solitude est un état d'âme. Ouais. C'est dans peut-être le meilleur des cas un embarras, une gêne, un mal-vivre, un malaise. Mais dans d'autres situations, c'est vraiment quelque chose de terrible. De terrible. Ce peut être parfois passager, ça passe, en raison des circonstances, en raison des vents qui nous environnent, qui soufflent dans un sens ou dans un autre. Et pour certains, c'est chronique. Chez certains chrétiens, c'est chronique. Ce mal de solitude, il pourrait avoir le monde entier entre eux, il pourrait avoir toute la communauté des enfants de Dieu, eh bien, il souffre de cela. Alors, bien sûr, il faut rechercher peut-être là, dans nos origines, dans l'enfance, il y a... C'est une pathologie, quelque part, hein, quand c'est à ce niveau-là. La solitude des hommes se porte. On parle de fardeau dans la Bible. Ouais, Jésus a rencontré des hommes et des femmes qui portaient leur solitude. Dans l'Ancien Testament également. Et souvent, on la tait. Ça se voit. Sans parole, mais ça se voit. Quelque chose qui ne va pas, il y a la tristesse, il y a véritablement ce malaise qui transparaît. Alors on la porte comme un fardeau. Et on n'en parle pas parce que bon, il n'y a pas grand-chose à dire. Il n'y a pas grand-chose à dire puisque on n'a personne pour le dire. Ou on croit qu'on n'a personne pour le dire et l'entendre et nous comprendre. Dieu dira à Israël cette parole particulière, et ça nous servira d'introduction, en parlant d'Israël, « Je l'ai trouvé dans une contrée déserte, dans la solitude. » Est-ce que ce n'était pas peut-être notre cas lorsque nous avons découvert Jésus, que Jésus s'est fait entendre à nous et qu'il nous a donné son appel ? « Donc, dans une contrée déserte, dans une solitude, aux effroyables hurlements. » Eh oui, on sait les entendre, ces hurlements, ces cris, ces gémissements, ce mal qu'il y a à l'intérieur. On les entend d'autant plus parce que finalement on est isolé, et où on veut peut-être s'isoler dans certains cas. Dieu poursuit, « Je l'ai trouvé et j'en ai pris soin. » Ah, notre message ce matin va être un message qui a pour but de nous faire du bien. Il nous fera du bien aux uns et aux autres, mais il fera particulièrement du bien à ceux qui peut-être ont prié cette semaine en disant « Seigneur, j'aimerais bien que tu me donnes un message pour dimanche prochain ». Moi, je suis très attentif à tout cela, parce que quand je dois préparer un message, je dis pas « Tiens, j'ai une idée, Seigneur, et puis bah, tu l'as béni ». Non, c'est le contraire. « Seigneur, dis-moi ce que je dois dire ». Parce que moi, je ne sais pas ce qui se passe dans les cœurs et dans les vies, mais le Seigneur le sait, et quelquefois, il y a une pensée du Saint-Esprit qui me dit « Eh bien, tu vas parler là-dessus. Moi, quelquefois, je suis pas toujours prêt. Hein. Je lui dis, oh, tu crois ? Ben, si lui, il croit, moi, je dois croire aussi. Hein. Parce que vous savez que Dieu est un croyant. Hein. Non, ça vous choque, non ? Que je vous dise ça. Alors, et il dit ceci, je l'ai entouré et j'en ai pris soin, c'est ce que je viens de lire. Je l'ai gardé. Je l'ai gardé comme la prunelle de mon œil. Vous vous rendez compte? C'est ce qu'il y a de plus sensible dans le corps humain, entre autres, mais vraiment d'une grande sensibilité. Une petite poussière qui tombe dans l'œil, ça vous met quelqu'un par terre. Hein. L'aveuglement, enfin bon, voilà, toutes les... Oh, c'est pas grave, on va pas en mourir, mais... Voilà, je l'ai gardé comme la prunelle de mes yeux. Il faut rappeler que la solitude a été de tout temps un phénomène humain. Et j'y ajoute l'adjectif « douloureux ». Il y a peut-être des gens qui ont confessé, moi ça m'est arrivé, « je suis heureux quand je suis tout seul ». Il y en a, hein ? Alors peut-être qu'ils sont environnés d'une atmosphère et d'un environnement qui est bruyant, qui est tumultueux, qui est, toutes sortes de choses que l'on peut imaginer, je ne vais pas m'étendre là-dessus, et qui fait ressentir cruellement le manque et l'absence. Je suis seul. Il y a des drames dans la vie. Je pense aux veufs et aux veuves qui, là, eh bien, ont été amputés, qui ont été déchirés ou qui se retrouvent tout seuls parce que l'épouse n'est plus là, parce que l'époux n'est plus là. Et ça, c'est quelque chose. C'est terrible, hein ? C'est affreux. Et ça prend du temps, hein, pour faire le deuil. Hein. Je suis seul. Il y a un proverbe qui nous dit ceci, « La solitude est à l'âme, c'est-à-dire le personnel intérieur, est à l'âme et à l'esprit ce que la diète est au corps. » Eh oui, le jeûne, on peut le dire comme ça, ouais, ça a été écrit comme ça, « Où il y a le ressenti d'une faim de quelque chose ou de quelqu'un, où il y a comme un assèchement de notre personnalité intérieure. Le corps va peut-être en souffrir, mais c'est surtout à l'intérieur de nous-mêmes. Un assèchement. Il me manque quelque chose. Il me manque quelque chose. Il y a un autre texte biblique qui nous dit ceci, et ça vous le reconnaîtrez parce que c'est quand même un texte fameux, dans Lamentations de Jérémie, où il est dit ceci, « Il se tiendra solitaire et silencieux. » Waouh ! Alors, en plus, il n'a pas à qui parler, mais c'est une école divine. C'est une discipline spirituelle. Il se tiendra solitaire et silencieux, mais écoutez la suite, parce que Dieu a une réponse. Sans perdre toute espérance, ce mal de la solitude peut nous amener à sombrer. Il peut nous amener à désespérer, peut-être à perdre la foi ou la confiance, ou peut-être notre vivacité spirituelle. Ouais. Peut-être certains vont se souvenir de certains épisodes de leur vie, où ils se sont trouvés, eh bien là, quelque part à vaciller. Mais la parole nous dit, mais sans perdre espérance, parce que nous ne sommes pas seuls, je ne vous laisserai pas orphelins, je ne vous abandonnerai pas, je ne vous délaisserai pas, répond le livre des Hébreux dans un autre passage. Oui, sans perdre toute espérance. Alors, cette petite flamme, vous savez, cette petite flamèche là qui reste, où il est dit que Jésus ne soufflera pas sur le lumignon qui fume, hein, semble. Voilà. Cette lumière d'espoir ranime la confiance en celui qui l'a connu. Alors, je vais vous dire qui. Celui qui l'a connu, celui qui l'a vécu, celui qui en a triomphé, qui l'a supporté, qui a pris la victoire sur ce sentiment terrible de solitude. C'est cette éprouvante émotion du grand vide dans nos déserts moraux de l'existence. Vous savez, il arrive toutes sortes de circonstances dans la vie. Tout va bien, et à un moment donné, ça s'effondre. Et on passe d'un état à un autre, et là, on se sent véritablement seul. Les accidents, les incidents, la maladie, enfin, les abandons dans l'amour, enfin, toutes sortes de choses. Et il n'y a pas que les personnes âgées, hein, à tout âge, même les enfants, quelquefois, malheureusement. Malheureusement. Nos déserts moraux de l'existence et nos solitudes spirituelles. Ah, là, c'est important, et je voudrais vous en parler. Je ne suis pas seul, mais je ressens dans mon engagement spirituel, eh bien qu'il y a quelque chose qui me manque, j'aurais besoin. Alors, il ne faut pas griller les étapes, hein, parce qu'on le voit, les bébés dans la foi, excusez-moi l'expression, mais avec beaucoup de respect, les commençants dans la vie spirituelle, eh bien, quelque part, vivre ça, mais ils veulent aller trop vite. Je voudrais être ceci, je voudrais être là. Du calme. Quelquefois, nous, en tant qu'accompagnants, eh bien, on dit, mais ça va venir. Ça va venir, et on ne fait que répéter. Mais on est passé par là. Mais ça ne les rassure pas pour autant. Parce que c'est eux, c'est pas nous. Mais il faut donner des paroles qui soient des paroles sans, pour qu'ils ne perdent pas toute espérance, naturellement. Alors, tout cela, c'est un personnage qui va nous parler ce matin. Alors, vous devinez qui, hein, naturellement. Ces sentiments d'abandon que nous avons, même, eh bien, de celui qui est en haut. Et nous rappeler, parce que je voudrais le relire, ce passage, Jésus dit, « Et moi, je prierai le Père. » C'est Jésus qui le dit, « Et moi, je prierai le Père. » La prière de Jésus est en notre faveur, et peut-être certainement différente de la nôtre, mais toujours est-il qu'il plaide, il est l'avocat, comprenez ? Il est celui qui fait le lien. Hein. « Je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, puisqu'il est question de solitude. » Alors on y ajoute le mot « consolation ». Un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'esprit de vérité. Il ne nous trompera jamais. Que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît pas, mais vous, vous le connaissez parce que vous êtes né de nouveau. Parce que ce matin, le fait même que vous venez écouter l'évangile pour prendre cette nourriture spirituelle pour fortifier votre vie et votre foi, c'est que vous en avez besoin et Dieu va vous parler. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure en vous. Et il demeure avec vous, en nous, avec nous. Le Seigneur n'est pas éloigné, c'est pas la peine d'aller le chercher à perpète et hein, au bout de la terre. Il est là. Il est au milieu de nous ce matin, hein, naturellement. Et il donne cette formidable parole, « Je ne vous laisserai pas orphelin. » Ouais, « Je ne vous laisserai pas orphelin. » Ça, c'est quelque chose. « Je viendrai à vous. » Et le Seigneur, peut-être à travers un simple message, et puis peut-être mes quelques balbutiements dans ce discours, eh bien, le Seigneur vient et il vous parle. Et il faut peut-être, certainement, eh bien, retenir, non pas les paroles d'un homme, mais les paroles de Jésus. Les paroles qu'il nous laisse. Besoin impérieux de sa présence. Du lundi au dimanche matin, on a tellement de choses qui nous encombrent. Enfin, il faut bien travailler, il faut bien s'occuper des choses, il faut bien s'occuper de la vie, il faut bien faire ce qu'il y a à faire, naturellement. Besoin de sa présence. Mes frères et sœurs, je le dis et je peux me permettre de le dire maintenant hautement et avec fièrement, on peut le dire. Ne vous privez pas de la vie de l'Église. Ne vous privez pas de la vie de l'Église. Tout n'est pas parfait et on est bien placé pour le savoir. Mais ne vous privez pas de la vie communautaire. On n'est pas seul et on n'est plus seul. Oh, c'est sûr qu'on peut entendre des choses qui peuvent être désagréables, des choses que d'autres ne comprennent pas et viennent avec peut-être là, eh bien, des drones au-dessus de notre tête pour essayer de... Non, non. Vous venez pour le Seigneur et vous venez aussi pour vos frères et sœurs parce que peut-être qu'il y en a qui sont peut-être pas trop enclins à faire du bien. Enfin, ils vont pas vous faire du mal, mais enclins vraiment parce qu'ils sont préoccupés par eux-mêmes, ils s'occupent pas des autres. Ça, c'est sûr. Mais vous avez des gens au milieu de nous, dans les églises, qui vont venir avec un message pour nous, avec une parole. Ils ne savent rien, mais ils vont vous dire ce que vous avez besoin d'entendre pour, eh bien là, vous aider dans votre solitude. Ouais, c'est important tout ça. Fin de relation. Beaucoup se sont mépris en venant dans les églises parce qu'ils avaient besoin de relations sociales. Eh bien, c'est pas ça ce que l'on peut offrir. Excusez-moi, mais c'est pas ça. Nos attributions, c'est d'offrir sur le plan affectif, sur le plan moral et sur le plan spirituel. Eh bien, une nourriture qui va vous rassasier. Alors après, il peut y avoir des relations sociales. Je ne suis pas contre. Hein. Autrement, eh bien, écoutez, on se rencontre et puis on monte un syndicat. Hein. D'accord ? Ça marche bien en ce moment, les syndicats. Bon. Alors, et cette communion, elle nous rassure. Et c'est Dieu qui nous envoie cette communion avec les uns, avec les autres et tout ça. Vous pensez que Dieu ne va pas se servir de descendre du ciel et nous révéler en direct ? Non, il peut se servir d'un frère, d'une sœur, voilà, tout simplement. Hein. Moi, j'ai trouvé, parce que j'aime beaucoup les proverbes, hein, vous en avez entendu en 20 ans, là. Hein. Je crois que j'ai épuisé je ne sais pas combien de livres de proverbes dans les messages précédents. Il y a un proverbe qui nous dit ceci, écoutez bien. « Celui qui n'est pas nourri à la table du Père, ou si vous voulez, de son Père, on prend sur le plan humain, naturellement, mais on peut le prendre sur le plan spirituel. Celui qui n'est pas nourri à la table de son père ne sera jamais rassasié. Qu'est-ce que c'est beau ! Parce que ce qui peut nous rassasier, eh bien, c'est les verts pâturages, les courants d'eau, vous savez, du psaume 23, « L'Éternel est mon berger, et je ne manquerai de rien. » Ça vous va, ça ? Ah ouais, moi, je sais que quand je prêche pour moi d'abord. Non. Mais je porte quelque chose pour dire, eh bien voilà, tu bénis ton église, tu bénis mes frères et sœurs. Il y en a qui se portent bien et ça nous fait plaisir. Il y en a qui se portent mal et véritablement ça nous attriste. Et vous êtes au cœur de nos prières. Ouais. Examinons le sujet maintenant. Parce que tout à l'heure, je vous ai dit que... Il y a quelqu'un qui a vécu, qui a connu, qui a supporté, qui a triomphé, c'est Jésus. Je cible maintenant. Nous avons tous notre expérience de tout ça. Et je voudrais vous parler justement dans l'Évangile, eh bien, les solitudes de Christ. Et ça, ça va nous fortifier. Parce que s'il y est passé et s'il a triomphé, c'est que nous, il est avec nous, il est en nous, il va nous accompagner et il va nous donner finalement de la joie et dans l'allégresse lorsque nous sommes tout seuls. On a tous connu ça aussi, hein. Moi, il y a eu des moments où j'ai... Eh oui, vous allez dire, c'est un ange, notre pasteur. Eh non, je ne suis pas un ange, hein, je suis comme tout le monde. Mais ça m'est arrivé de vivre des onctions du Saint-Esprit. Même dès le début de ma conversion, je me souviens de certains moments que j'oublierai jamais de ma vie, où là, vraiment, il y avait un tressaillement, un ressenti de la présence de Dieu. Et ce n'était pas humain. Ça n'a pas duré longtemps. J'en ai pas tous les jours, heureusement, parce que je crois que Myriam... Bon, vous ne m'en parlerez pas, parce que c'est comment ça se passe à la maison. Mais c'est quelque chose qui est formidable. Et nous devons nous en souvenir que dans ces périodes où nous n'étions pas bien, le Seigneur est venu nous visiter et son esprit a agi à l'intérieur de nous-mêmes. Et une joie, une allégresse qu'on ne peut connaître humainement parlant. Alors, le sujet, Jésus, les solitudes de Christ. Une naissance solitaire, d'abord. D'accord ? Hein ? Dans une pauvreté extrême, personne s'est occupé de Joseph et de Marie et de ce petit qui allait venir quand il est arrivé à Bethléem. Tout le monde était en train de l'acclamer. Non, pas du tout, tout seul. Pas de place à l'hôtellerie. Jeune adulte, Jésus débute par l'isolement de 40 jours dans l'affreux désert inhospitalier, en suprême tentation, tout seul. Et attendez, hein, c'était pas une petite tentation, hein. 40 jours, tenté sur trois éléments. La souffrance, les pains, les pierres changées en pain. La tentation de la gloire, de la puissance. Quand il est parlé, je te donnerai tous les royaumes de cette terre. Et puis, puisque tu es le Fils de Dieu, eh bien alors à ce moment-là, tu montes sur le haut du tombe. Ne prends pas de parachute, ça ne sert à rien. Je te recueille à la sortie. Voilà. Ça, c'est aussi quelque chose à souligner. Jusqu'à la croix, au soupir fatidique, où il est dit, maintenant je remets mon esprit entre tes mains, naturellement. Alors, dans l'indicible souffrance des percements de son côté, dans les mains, etc., des clous, eh bien là, dans ses membres, de crier à la face du monde, « Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ah, alors là, c'est quelque chose, hein. Pourquoi m'as-tu abandonné ? Parce que le ciel demeure silencieux. Jésus a obéi pendant 3 ans et quelques à son Père, « Oui, je fais ta volonté, je viens pour faire ta volonté. » Et puis là, au dernier moment, je m'aperçois que celui qui m'a appelé du ciel... Eh bien, ne réponds plus maintenant. Hein. La communication est coupée. Ouais. Les silences de l'agonie. On aimerait tellement, lorsqu'on est vraiment épouvantablement malade, que quelqu'un nous parle du haut du ciel. On en a besoin. La croix. La croix, eh bien, la seule pensée de cette horrible perspective jette un voile d'angoisse. Oula. On aurait tellement besoin de la présence de Dieu. Des paroles de Jésus qu'on ne se souvient plus. Comme une anesthésie. Et nous voyons que c'est un voile qui tombe sur nous. Et il nous faudra, et il lui faudra pour Jésus, affronter la mort seule. Pourtant, Jésus s'avance vers la victoire, aux apparences de défaite. C'est là où il faut la foi. Aux apparences de défaite. Regardez, il est mort. Ça y est. Ils l'ont tué, on est débarrassé. Pourquoi aller chercher plus loin ? Non, ça, c'est une apparence de défaite. Mais la victoire, c'est 2 jours après, hein, la résurrection en gloire. Seul. Seul. Cependant, pour le soutenir à cette heure cruciale, il a aussi au fond du cœur cette promesse indéfectible de ce que je viens de dire tout à l'heure, la résurrection. Dieu lui avait promis qu'il ne resterait pas dans le tombeau, qu'il ressusciterait et que là, il retournerait dans ce ciel de gloire pour l'éternité. Mais il n'y va pas tout seul, là, cette fois-ci. Il y va avec le peuple des croyants, avec son église, son épouse, sa fiancée. Plus seul, mais tout est accompli. Quelques jours auparavant, la croix, à Gethsémané, dans le pressoir, c'est ce que ça veut dire, hein, tout simplement, hein, c'est quand même... Dans cette nuit redoutable qui nous est décrite dans les évangiles, il avait invité ses disciples à prier avec lui, et eux s'étaient tout bonnement endormis. « Allez, venez avec moi, nous allons passer la dernière soirée. » Et il leur a dit maintenant, eh bien là, on va avoir ce moment d'intensité. L'intensité, Jésus va véritablement la connaître avec des grumeaux de sang. Mais quand il se retourne, il voit ses disciples qui sont complètement hors course, qui sont au-delà finalement de cette situation. Et il va devoir leur reprocher ces paroles, tout simplement, eh bien, pourquoi n'avez-vous pu veiller ? Moi, j'avais tellement besoin, mes amis. Vous, j'avais tellement besoin de vous dans ces heures, cette heure cruciale, et vous n'êtes pas là. Vous n'avez pu veiller une heure avec moi. Il est encore sans ses amis, qu'il a eu pendant plusieurs mois, de longs mois. À chaque étape, beaucoup l'ont abandonné en chemin. Ouais, c'est vrai. Les Juifs, qui étaient des individus farouchement hostiles, criant des propos meurtriers, « crucifix, crucifix-les », invitant le peuple à ne faire de Jésus aucun cas de lui. Ça, c'est aussi de la solitude. Aucun prend la défense. Nul ne prend la défense. Solitude et mépris. Voilà les solitudes de Jésus. Abandonné encore et toujours, pensons à ses compatriotes galiléens qui l'ont chassé de Nazareth. Ça, c'était avant, naturellement. Et voici Pierre et les autres, au moment ultime de la croix, qui s'enfuient au loin. Ah, Pierre le courageux, hein. J'irai jusqu'au bout du monde avec toi. Je donnerai même ma vie. Et au moment où, véritablement, c'est l'occasion de faire quelque chose, il s'enfuit loin. Puis, c'est Judas qui attend le dernier moment pour trahir Jésus, sans regret, d'une manière pitoyable. Ouais, celui qui avait vécu avec Jésus, celui qui avait connu, eh bien là, sa proximité, qui avait entendu ses messages, qui avait vu ses miracles. Allez, tu ne m'intéresses plus, Jésus, parce que moi je considère que de toute façon, tu as raté ta mission, il n'y a rien à faire. Alors, tu peux retourner là d'où tu viens. Hein. Ouais. Enfin, il y a ceux qui sont restés loyaux au maître. Oui, mais vous allez voir de quelle manière. Qui n'ont pas tardé à faire comme tout le monde, lui tourner le dos. Quand vous lisez Luc, hein, il me semble, il nous est dit à un moment donné que les disciples regardaient de loin pour savoir ce qui arriverait. Et ce qui est arrivé, c'est qu'il était crucifié, ça c'est sûr. Mais ils ne se sont pas approchés. Deux seulement, Marie, la mère de Jésus, la maman. Et puis il y avait l'apôtre Jean aussi. Mais c'est les deux. Vous rendez compte ? Avec ces milliers de gens qui ont entouré Jésus, des foules. Eh oui, c'est toujours la même chose. Au dernier repas, lors du dernier repas, Jésus est obsédé par une pensée, une tragique pensée, qu'il n'allait pas tarder à vivre réellement pendu à la croix, selon la prophétie ancienne. C'est une prophétie qui n'est pas très connue, mais qui est quand même la réalité, l'accomplissement finalement de ce que Dieu, inspirant le prophète, avait dit sur Jésus. « Je frapperai le berger, devinez qui, et les brebis seront dispersées chacun de son côté. Je vous laisserai seul. » C'était le contraire de ce que nous avons vu tout à l'heure. « Je vous laisserai seul, encore une fois de plus. » Ça, ça fait partie des tristesses de la solitude, liées à la solitude de Jésus. Je voudrais faire un rappel, tout simplement. Rappelons que la solitude a plusieurs visages. On en connaît quelques-uns. on envie peut-être quelques-uns. Mais Jésus nous dit toujours, quelle que soit la nature de ces solitudes, je ne vous laisserai pas orphelin. Laissez-vous pénétrer par cette parole. Je ne vous délaisserai pas, je ne vous abandonnerai pas. Peut-être vous avez vécu des choses difficiles cette semaine, dans le mois dernier, des choses comme ça. Vous avez senti la blessure de la solitude, le mal que peut faire la solitude. Le monde dans lequel nous sommes, où là, avec tous les moyens de communication et tout ce que voulait l'informatique et tout le reste, les gens ne se sont jamais véritablement ont su vraiment communiquer pour apaiser les solitudes des uns et des autres. Pourtant, il y a tous les moyens. Hein. Dans le temps, ce n'était pas tout à fait la même chose. On se parlait en direct. On parlait. Moi, ça m'arrive quelquefois de dire, lorsque je vais dans un magasin, on me dit « passez à la caisse rapide ». Ah, je lui dis « non, moi, je vais aller voir la dame, là ». Peut-être qu'elle va me faire un petit cadeau. Parce qu'elle est menacée, elle aussi, d'avoir une grande solitude à un moment donné quand on va lui dire que vous n'avez plus de poste. Tout est remplacé par la technique. Mais elles en sont conscientes, hein, les dames, là. C'est terrible. Quel monde ! Quel monde dans lequel on est ! Il n'y a jamais eu autant de détresse, autant d'instituts qui ont été ouverts, de traitements psychologiques, etc., en raison de la solitude de notre société. Et petit à petit, on est en train de manger le monde avec tout ça. Parce que nous sommes dans une, soi-disant, société d'avant-garde. Mais on importe ça aussi dans les pays où il y avait des communions, où il y avait véritablement eh bien, de la relation, parce que c'était tribal, c'était tout ce que vous voulez. Mais aujourd'hui, on ne se parle plus. Si on se parle, je voudrais vous vendre... Bon, j'arrête là, hein, parce qu'autrement, vous l'entendez souvent, ça. Hein. Eh oui, c'est terrible, hein, ça, hein. Et c'est pas ce qu'on veut entendre. Enfin, moi, je voudrais vous dire, bon, maintenant, je suis un petit peu hors de course, mais même si je suis plus au cœur de la chose, mais j'y suis quand même. Ne vous trompez pas. Souvent, Alain, on veut pas te déranger. Je veux pas te téléphoner parce que je te dérange. Oh. Mais j'ai plus rien à faire. Mais franchement, j'ai plus rien à faire. Je m'ennuie, moi, chez moi. Ouais. J'ai un jardin qui fait 11 mètres carrés. Alors, j'arrive pas à suffire à tout. Hein. Non, mais je plaisante, parce que je tourne un petit peu les choses en dérision. Mais quand même, aujourd'hui, quand... moi, je le sens bien. Si c'est pour me dire, voilà, j'ai une mal de dents et tout ça, bon, c'est pas la peine de me déranger. Je vais vous dire, allez chez le dentiste. Mais quelquefois, il y a des situations où vraiment les gens ont besoin de parler. Qu'ils parlent à Myriam ou qu'ils parlent à moi, c'est la même chose. Mais ils ont besoin. Et quelquefois, on voit qu'il y a des résultats immédiats. Ah, ça m'a fait du bien. Et quelquefois, je ne suis pas seulement appelé pour la région, hein, parce que j'ai été quand même 40 ans ailleurs. Je peux vous dire qu'il y a des gens qui ne nous ont pas oubliés. Hein. Parce qu'il y a de l'écoute. Parce qu'il y a une réponse. Et pendant 3 mois, hein, pendant 3 semaines. Parce qu'on peut parler avec les gens, ils en ont besoin. L'Église a besoin d'avoir un interlocuteur, d'avoir des interlocuteurs. Et vous pouvez le faire avec les frères anciens aussi. Certains sauront. Le Seigneur le sait, tout ça. Je ne vous laisserai pas seul. Donc, je voulais vous dire simplement, la solitude a plusieurs visages. Il y a une solitude bienfaitrice qui apporte calme et sérénité, celle qui nous repose de nos stress quotidiens, de notre vie moderne, des tensions. Elle est réparatrice. Et Jésus l'avait bien compris avec ses disciples qui étaient partis en mission, les 70. Venez à l'écart et reposez-vous un peu. Prenez de la nourriture. Eh oui, ça existe. Il ne faut pas tout mettre dans le même panier en disant « mais tout est mauvais ». Non, parce que Jésus l'a conseillé, ça, d'aller un petit peu au calme. Il y a une autre solitude qui est liée au tempérament de la personne. Il y a des gens qui sont neurasthéniques. Puis ils ont toujours vécu comme ça, ce n'est pas de leur faute. Ouais. Et ils sont handicapés à l'intérieur parce qu'ils voudraient peut-être être autrement, mais... Et qui vont apprécier finalement la fuite de la communauté, de la société. L'appréciation de l'isolement. Parce que la foule est angoissante. Parce qu'à chaque fois que je replonge dans quelque chose, ça me rappelle finalement eh bien, la complexité de notre monde et de notre vie. C'est difficile tout ça. Parce que ça peut nous régénérer aussi de prendre du temps. Quelquefois, on a des pasteurs qui se sont tellement investis dans le ministère que quelque part, ils ont tout zappé dans leur vie. La vie conjugale, qui mérite sa place. Et oui. La vie sociale, si... voilà. La vie familiale avec les enfants. Ah oui, mais bon, les enfants, voilà. Hein. Moi, j'ai une réunion ce soir, j'ai ceci, cela, etc. Mais ça a été terrible, ça. Hein. On en a vu. Hein. C'est terrible. Ouais. Et puis passer à côté vraiment des réalités, parce que le Seigneur veut que nous nous reposions aussi, que nous nous mettions à l'écart, pour reprendre des forces. Et puis peut-être après, non pas les dilapider, ces forces que nous avons reprises, mais de pouvoir être... Bon, on mûrit avec tout ça, hein, de toute façon. Il faut bien le comprendre. Et puis, plongeons un peu dans notre monde comme il est aujourd'hui, il y a également la solitude des responsabilités. Parce qu'on s'aperçoit que de plus en plus de nos contemporains sont chargés de toutes sortes en entreprise, hein, le niveau d'études, etc., vous donne finalement des places, hein, une lumière dans ce monde, qui sont chargés du pouvoir de décideur. Qu'est-ce que l'on fait ? Ouais, il y a certains, je vois en politique, je ne voudrais pas m'appeler Emmanuel. Hein. Il a une vie tranquille. Les choix écrasants que l'on endosse seul et leurs conséquences, quand on pense à Moïse, son beau-père est venu le voir pour lui dire « Écoute, tu ne vas pas y arriver. Hein. 2 millions de personnes à gérer dans un désert, ils sont toujours en train de râler. Ils sont toujours mécontents. Tu ne peux pas y arriver tout seul. » Ben voilà. Hein, parce que lui, il pensait que Moïse qu'il était, eh bien, il pouvait satisfaire, mais il n'en pouvait plus. Il était prêt de craquer. Élie au mont Carmel. Là, vous savez, avec il a trucidé 450, comment il s'appelait, des prêtres de Baal, hein, des faux prophètes. Et à un moment donné, ben, ça bascule d'un seul coup. Hein. Et c'est Jézabel qui court après lui. Hein. Pas pour le bénir, pas pour lui faire du bien, mais pour lui couper la tête. Hein. Et à un moment donné, il déprime. Et il déprime sérieusement. Hein. Parce que Dieu est obligé de lui parler 3 fois quand il dira « Mais je suis resté moi seul. » Mais Élie, tu ne te fais pas des idées, là ? Moi seul ? Tu ne sais pas que, et tu ne le vois pas, mais il y a 7000 hommes qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal et qui sont encore mes serviteurs. Tu n'es pas tout seul. On pense souvent qu'on est seul. Ésaïe et Jérémie, qui s'est retrouvé dans une citerne, qui prenait son bain. Oui, un bain de boue, hein, et qui est resté pendant je ne sais pas combien de temps. Jean-Baptiste. Ah oui, c'était terrible, parce que lui, il a fini en prison. Hein. Il n'avait rien demandé. L'apôtre Paul, il y a été plusieurs fois. Et en prison, ils étaient seuls, hein. Ça c'est certain. En fait, Jésus a connu tous les aspects et toutes les formes, les diverses formes et raisons des solitudes dans les déserts, tantôt sur les rivages, en prière, dans la montagne hostile à l'aurore du jour, dans le silence ténébreux des nuits qu'il a pu connaître d'une manière ou d'une autre, et tout ça pour accepter cette proposition de Dieu de venir sauver le monde. Il est resté seul devant Caïphe. Ah oui, tout le monde écoutait, tout le monde voyait, mais personne ne dit. Hein. Oh, ils ont bien fait venir quelques témoins fâcheux, mais toujours est-il qu'il a été jugé, il a été violenté, seul. Seul devant Hérode, qui s'est moqué de lui. Parce que ça fait partie de la moquerie, ça aussi. Hein. Seul devant Pilate, qui l'a royalement, impérialement, va se laver les mains dans une bassine que sa femme vient de lui dire. Mais attention, cet homme, c'est pas n'importe qui. C'est pas n'importe qui. Il est juste et innocent. On peut dire que Jésus a vécu sa vie solitaire lorsqu'il est monté la Via Dolorosa. Si vous allez à Jérusalem, on la traverse finalement pour aller dans... Alors c'est une vie commerçante, une voie commerçante aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir. Hein. Mais c'est pour dire que là, il avait la croix sur le dos et il montait. Il était seul jusqu'à un certain moment, jusqu'au moment où Simon de Cyrène, lui, contraint de porter la croix de Jésus jusqu'au bout, hein, jusqu'à Golgotha. Seul, toujours. Seul en agonie. Seul dans la mort. Souvenons-nous de ces solitudes, les solitudes de Jésus, parce que nous en avons besoin d'être réconfortés, de dire « mais je ne suis pas seul. Il a marché devant moi. Il m'a ouvert la route. et il m'a donné le secret pour que mes solitudes ne me détruisent pas, ne viennent pas avoir raison de ma vie, de ma foi. Parce que ces solitudes, les solitudes de Jésus, eh bien, nous guérissent de nos propres solitudes. Eh oui, il nous est dit tout simplement que nous pouvons nous approcher de lui parce que les fardeaux qu'il a portés, eh bien, il a porté pour notre guérison. Ça, c'est du grand classique de l'évangélisation. Abandonné de tous, même dans l'approche de la mort, abandonné de tous. Je voudrais simplement faire référence, et je vais bientôt terminer, hein, naturellement, dans Hébreux, chapitre 4. Et il est dit cette parole au verset, chapitre 4, verset 15. Voilà. Ah oui, c'est... Voilà, exactement. Puisque nous avons un souverain sacrificateur, Jésus, qui a traversé les cieux, il est descendu. Demeurons fermes dans la foi que nous professons. Dieu vous a appelé. Sur votre chemin, vous rencontrerez les solitudes. Vous en avez déjà rencontré, vous en rencontrerez encore. Mais néanmoins, eh bien, sachez que celui qui vous a précédé a été vainqueur, et il était vainqueur pour vous. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Il y est passé. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché, sans révolte, sans renier Dieu, sans s'en prendre aux autres. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans tous nos besoins. Et un besoin dont nous avons parlé ce matin, c'est la solitude. Changer finalement, eh bien, non pas à l'extérieur de nous-mêmes, mais changer dans notre cœur et au fond de nous-mêmes. Ça, c'est autre chose. La conclusion serait la suivante, si vous me permettez. Il a été le grand solitaire, non pas le diamant que vous portez au doigt. Mesdames, vous avez tous un diamant, non ? Un solitaire. Vous êtes riches. Vous êtes riches spirituellement, mes sœurs. Oui, oui. Alors, bon, on va passer celui-ci. Il a été le grand solitaire, volontaire, rédempteur, pour que nous ne puissions connaître quelque chose de neuf, de nouveau. Pour les péchés de l'humanité tout entière, afin que nous ne soyons plus jamais seuls. Je suis tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde. Cet après-midi, demain, tout le reste de l'année, jusqu'au dernier soupir, Jésus veut que nous sachions, et ça c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire, c'est notre ancre pour tenir, une ancre comme pour le bateau, hein, naturellement, pour tenir dans les tempêtes et dans toutes sortes de choses, y compris les solitudes, eh bien, je suis tous les jours jusqu'à la fin du monde avec vous, pas contre vous. Emmanuel, Dieu avec nous. Je voudrais vous citer un poème. Vous permettez ? Oui, non, je ne sais pas, on ne sait pas. Oui, oui. Mais vous me faites tous un grand sourire, donc je vais vous l'imposer. J'aime bien quand vous souriez, parce que moi je souris jamais, alors évidemment, hein. Je me sens seul. Hein. Bon, il y a un cantique que j'ai beaucoup aimé, je l'aime encore, hein, qui peut être approprié à la solitude. Ce poème, c'est un cantique, hein, ce poème nous dit ceci, tu n'en peux plus. Ouais, tu n'en peux plus. Et tu vois bien que tu fais des efforts, mais ça ne change rien. On se bagarre quelquefois contre les courants d'air, parce que ça peut venir de l'extérieur, mais ça vient aussi de nous-mêmes. Dans ces moments, Dieu nous dit, mais reste confiant. C'est ce que je viens de terminer le message tout à l'heure sur cette note. Parce qu'il connaît tes besoins et il te tient par la main. Je t'ai pris dans ma main. Vous connaissez le livre d'Ésaïe, hein ? Je te tiens dans ma main. Dieu sera ton appui quand tout semble fini. Mais seulement quand tout te semble fini à toi. Mais pour Dieu, ce n'est pas fini, ça commence. Une vie nouvelle. Entre ses puissants bras, il y a là comme un caractère véritablement de sentiment, d'intimité affectueuse. Eh bien, il te fortifiera Si la crainte et le doute, ça c'est redoutable, c'est l'ennemi, t'assaillent sur ta route. Et il y aura certainement pas mal d'assaillants sur notre route à chacun. Et ce poème se termine par cette parole. Mets ta confiance en lui. Pas seulement dans des mots, mais d'une manière pratique. Mets ta confiance en lui. Moi, je voudrais vous dire, mettez votre confiance en Jésus. Oui, vous allez voir ce que c'est. Une confiance durable. Et même si quelquefois vous perdez pied en disant, mais Seigneur, j'ai des problèmes avec la confiance en toi, etc. Mais demandez-lui qu'il vous donne plus de confiance, plus de foi, plus d'intimité avec lui. Mais il va vous la donner, il ne va pas vous la refuser. Mets ta confiance en lui, car il prend soin de ta vie. Si Dieu vous a appelé, si vous êtes là aujourd'hui, ce n'est pas le fait du hasard. Ce n'est pas parce que vous avez vu une publicité là dans le Figaro ou autre chose en disant bah, « Tiens, je vais aller au centre évangélique de Saint-Nazaire ». Ce n'est pas comme ça que ça marche. C'est que Dieu vous a appelé là, dans l'état où vous étiez. Il vous a vu dans la solitude, ne pas pouvoir vous débrouiller tout seul, vivre tout seul. Alors, le Seigneur, eh bien, il va prendre soin de vous, naturellement. Tout ce qu'il dit est vrai, pardon. Sa grâce, dites-moi, sa grâce te suffit, voilà. Elle te suffit, qu'est-ce que tu vas chercher de plus? Sa grâce te suffit et il sera ton appui. Que Dieu nous bénisse ce matin, que Dieu nous donne sa grâce. Alors, il y a tant de situations comme ça, même dans nos églises, et le Seigneur veut que vous soyez heureux, 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 et le peuple de Dieu. Alors, je ne vais pas vous le chanter parce que je suis nul dans le chant. Mais bon, une chose qui est certaine, c'est que c'est ça, la solitude. N'ayez plus crainte, n'ayez plus peur. Dieu vous bénit ce matin. Et Dieu va vous bénir encore dans cette dernière prière que nous allons faire. Et peut-être, je peux me permettre, parce que moi je fais les choses simplement, si vous avez vraiment un besoin à ce niveau-là, parce qu'on peut être seul dans un couple, on peut être seul célibataire, naturellement, ça se comprend, et seul dans d'autres situations. Mais une chose qui est certaine, c'est que le Seigneur, il est pour vous affranchir et vous bénir. Voilà, on se courbe quelques instants. Peut-être ceux qui ont besoin, levez-vous à votre place et puis on va prier. Voilà. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et nous te bénissons, Seigneur, dans le nom précieux et glorieux de Jésus. Parce que nous savons en effet, Père éternel, que tu es venu pour nous parler. Une église, c'est là où on parle. C'est là où on annonce l'évangile principalement et on se parle les uns les autres. Mais une chose qui est certaine, c'est que toi, tu nous connais parfaitement. Tu connais là où nous vacillons. Tu connais, Père éternel, nos points faibles. Tu connais, Père éternel, là où nous aspirons profondément. Eh bien, Seigneur, quelque chose de plus proche, de plus intime. Seigneur, aide-moi, Père éternel, à ne pas m'enfoncer, Seigneur, dans les marécages de la solitude. Parce que nous savons que le but du diable, c'est de diviser. C'est véritablement, Père éternel, isolé. Ouais, isolé pour diviser. Seigneur, je te prie pour mes frères et sœurs, ceux qui ont besoin. Alors accorde-leur ton secours et ton aide. Ceux qui sont là devant toi et qui te prient du fond de leur cœur en disant, bien Seigneur, viens me guérir parce que tu es passé par tout cela, Seigneur. Et tu nous as donné la victoire. C'est auprès de toi que nous devons prendre la victoire. Et nous te bénissons et nous te remercions. Et c'est vrai que quelquefois nous n'en pouvons plus. Et nous désespérons de nous-mêmes, mais n'étais pas là pour véritablement eh bien, nous accompagner. Bénis mes frères et sœurs, bénis l'Église, bénis nos Églises, Seigneur. Et nous voulons en effet t'apporter le témoignage de ta grâce et de tes délivrances, encore aujourd'hui, pour en effet ce que nous sommes, dans le sentiment d'être seuls. Nous ne sommes pas seuls, tu es avec nous jusqu'à la fin du monde. Merci Seigneur. Amen.